savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouellette.
Alex, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bon, alors tu sors des sujets de
à gauche, Montréal, à droite.
Là,
hein?
Là tu pars avec de la sexsomnie.
Ouais, toute une histoire qui est tombée entre deux cracks. Je t'explique Benoît, un geste qui remonte là en janvier 2019, une femme qui s'est fait agresser en plein sommeil par son frère alors que les deux se rendaient à une activité de plein air, dormaient chez un ami à Québec. Et l'homme de 34 ans, donc son propre frère, avait la main entre ses jambes et la masturbait. Elle a quitté l'endroit immédiatement, porté plainte à la police. Le problème, c'est qu'au procès, l'accusé lui a plaidé la parasomnie du sommeil pour expliquer son geste. Un expert en troubles du sommeil qui s'est présenté, sa conjointe, une ex-conjointe, qui ont déclaré, justement, que l'homme, finalement, était criminellement non responsable de l'agression sexuelle, vu qu'il avait, justement, cette espèce de problème de sommeil-là. Parce que, par contre, au travers de tout ça, t'es pas plus libre, même si c'est déclaré criminellement non responsable. Dans un délai de 90 jours, le juge a transmis à la commission d'examen des troubles mentaux l'accusé doit quand même se rapporter à cette commission-là pour un examen, pour un suivi vers la suite. Mais là, 8 mois après le verdict, l'accusé n'a jamais été convoqué par la commission pour évaluation, donc il est libre comme l'air. Malgré une promesse là de toujours en vigueur de pas communiquer avec la plaignante, c'est tout ce qu'il reste au fil de tout ça. Et là, la plaignante, la sœur en question, un an après son témoignage, a voulu savoir où en était le suivi psychiatrique de son frère. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que la commission a jamais reçu le suivi de tout ça. Et même qu'on lui a dit là du côté d'un employé du greffe à Québec que c'était probablement perdu. Ça, c'est probablement perdu dans... Tu sais, le sketch de François Pérusse, perdu dans mal.
Ouais.
Voilà. Ça s'est perdu dans mal quelque part. Même l'accusé lui-même a été contacté par le journal et a dit « J'attends toujours ma convocation, c'est jamais arrivé. » Donc, c'est même inquiétant de savoir qu'il y a des cas comme ça, même s'ils sont déclarés non criminellement responsables, qui se perdent dans la nature, dans le système.
Ils doivent être avec les passeports qui ont été envoyés à travers le...
Ouais, ou tous les permis de conduire retrouvés dans un éco-centre Québec, qui sait. Oui.
C'est rassurant. Début du procès d'un policier pour agression sexuelle.
Ouais, Yannick Dauphinet, ce matin, au palais de justice de Longueuil, son procès qui débutait pour cet homme de 43 ans, policier d'expérience de la Régie intermunicipale, la police du Roussillon, qui, selon la version de la victime, qu'on ne peut pas présenter, évidemment, par ordre de la cour, qui a témoigné de manière émotive aujourd'hui pour une agression sexuelle qu'il a dit avoir subi le 21 juillet 2021. C'est drôle, la veille, il est dans une station-service, le policier est en uniforme, là, avec son véhicule, et là-bas, lui demande si il peut la suivre à l'épicerie, où est-ce qu'elle compte se rendre ensuite après la station d'essence. Elle a la moitié de son âge, là, c'est une étudiante là, pour référence. Et là, la suit jusqu'à l'épicerie, demande le numéro de téléphone à la jeune femme. Elle trouve ça bizarre, en parle à des proches tout de suite, dit « Ah, c'est bien étrange, tout le monde est d'accord, surtout que le policier est en uniforme à ce moment-là. » Et lui continue à la texter dans la soirée, elle répond pas, mais finalement, hop! Alors qu'elle se prépare pour sortir de chez elle, le policier s'invite. Il est là. Elle lui avait donné son adresse un peu plus tôt et il débarque chez elle. Rapidement, sans crier gare, il l'embrasse et exige une gâterie. La jeune femme a vraiment peur, s'exécute là-dessus et l'homme lui dit « Ah, ça serait bien qu'on se revoie, je reviens demain à la même heure. » Finalement, porte plainte extrêmement rapidement après avoir parlé à ses proches, plainte aux autorités et de ce qu'on disait aujourd'hui du côté là des avocats de la couronne, ils se connaissent pas du tout. Là. Il y a rien ni avant ni après comme
le mot consentement
entre ces gens-là. Et c'est surtout, évidemment, la relation de confiance qu'on est censé avoir envers la police. La jeune femme dit, moi, je me sentais obligé là, qu'ils me suivent, donner mon adresse, donner mon numéro. C'est un policier, il est en uniforme à ce moment-là, avec son véhicule de patrouille. Donc, un procès qui va se poursuivre toute la semaine, mais qui montre que des fois, il y en a des pommes pourrites dans le panier.
Mm-hmm. Pourrites. Dans ce cas-là, oui, absolument. Vapotage chez les jeunes.
Ouais, il y a d'autres données qui sont sorties, qui ont été analysées. Là, c'est la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac qui a publié ça ce matin. Eux ont utilisé l'analyse d'une firme conseil qui s'est penché sur des données d'enquête sur le vapotage qui n'ont jamais été encore publiées par le gouvernement fédéral. Et c'est des chiffres de Statistique Canada en 2021. Donc, on comprendra que ça a pu augmenter depuis. Mais le taux de vapotage chez moins de 24 ans est 3,6 fois plus élevé que chez les jeunes de 25 ans et plus. Et ça continue d'augmenter là, dans la population générale. En 2017 et 2021, on est passé le taux de vapotage dans la plus grande population de 3,8 à 5,3 des gens qui utilisent le vapotage. Mais c'est surtout que parmi les jeunes adultes là, de 12 à 24 ans, donc ceux qui sont les plus propices à commencer ce vapotage-là, il y en a 91% d'entre eux qui tirent aucun avantage en matière d'arrêt de tabac. Parce que c'est souvent un argument qui est utilisé par l'industrie, celui-là, de pouvoir vapoter, ça aide à réduire sa consommation de cigarettes plus régulière. Mais chez les jeunes, 91% des gens en prennent seulement pour en prendre justement de ces produits du vapotage. Et donc là, parmi là tous ces jeunes, tous les gens qui ont commencé à vapoter, là, 61 500 personnes entre 2017 et 2021 au Québec, ben 86% là-dedans, c'est des nouveaux vapoteurs, c'est pas les gens qui ont fumé du tout. Donc ça vient contredire certains chiffres de l'industrie. Et pour la coalition, eux, ce qu'ils aimeraient privilégier, c'est que les médecins puissent, par exemple, prescrire un produit de vapotage à petite saveur, là, aux fruits ou quoi que ce soit, aux gens qui essaient d'arrêter de fumer. C'est comme une prescription médicale qu'on donnerait au lieu de pouvoir les vendre.
De fumer, là, moi, j'ai arrêté de fumer. Là. Tu veux pas fumer, tu veux pas vapoter à la banane ou aux fruits de la passion. Tu sais, tu cherches le goût du tabac, tu veux fumer. Ouais. Mais quand tu utilises ces saveurs-là, c'est pour attirer les jeunes. Il n'y a pas d'autre raison.
Ouais, puis après,
sinon, ça tombe sur le cœur. Moi, j'ai essayé des melons d'eau, pamplemousse, c'est dégueulasse.
Pis ça exige même des jetables hein, maintenant aussi. Là, des petites vapoteuses que tu achètes au dépanneur. Ouais, ça va te durer une soirée.
Pour polluer, il n'y a rien de mieux.
Un bout de semaine, voilà.
Mais vapoter là, au beigne, tu sais, au beigne recouvert de chocolat, ça, c'était bon.
Saveur au beigne?
Ouais.
T'as-tu goûté à ça pour vous?
Non, c'est pour faire le suivi avec Tim Horton.
Ah ouais, le Tim Horton. Écoute, toute une histoire. Une Ontarienne qui poursuit Tim Horton. Et là, on parle de 500 000 $ de dommages. Elle s'est renversée un thé sur le bas du corps alors qu'elle était à la commande à l'auto. On lui a tendu là, un thé surchauffé. C'est ce que Madame Lansing, Jackie Lansing, 73 ans, qui poursuit, affirme. Elle dit, là, ta commande à l'auto, reçois la tasse. La tasse est super brûlante. Et donc, ça s'est immédiatement renversé sur elle. Et là, elle a été brûlée au deuxième degré quand même. Elle dit qu'elle a des cicatrices permanentes, qu'elle va être défigurée des jambes, ça lui produit une mauvaise image d'elle-même, développe des troubles de santé mentale. Bref, c'est une plainte quand même là, massive. Là, on parle de 500 000 $ comme ça de dommages qui pourraient être rapportés. Et du côté, évidemment, là, de Tim Horton, on nie toute négligence alléguée dans ce cas-là. Donc, c'est quand même un cas qui sera à suivre, à voir s'il risque d'avoir, là, comme dans beaucoup de cas là, pour les grandes chaînes comme ça, il y a toujours le « attention, contenu chaud » qui est écrit sur les tasses,
mais c'est
obligatoire.
Autres, les employés de Tim Horton là, sont de plus en plus, ils s'en sacquent de plus en plus. Moi, la dernière fois, j'étais allé dans un Tim Horton, là, je me dis plus jamais. Ils te donnent ça, là, puis écoute, et moi, j'y ai donné un pourboire parce que, tu sais, tu dis, puis là, rien, pas merci pour rien, là, ils veulent rien savoir, puis ils crispent par la tête, fait que moi, leur café, ils vont y
garder. Moi, je veux pas donner du jus à Mme Lansing dans cette histoire-là, mais on dirait qu'à chaque fois que j'ai commandé un café au Tim Horton de toute ma vie, il est à la température du soleil pendant 20 minutes. Puis à la 21e minute, là, je fais « Ah, il doit être assez froid pour être bu. » Il est classique.
Là, il est plus buvable.
C'est l'histoire de ma vie.
La dernière histoire là, de vidéo virale.
Ouais, c'est assez spécial. C'est qu'il y a un ancien participant de l'émission Family Feud, tu sais, le jeu télévisé aux États-Unis en ce moment, qui est accusé d'avoir tué sa femme en février dernier. Timothy Blefnik, 39 ans, est arrêté lundi dernier. On a retrouvé sa femme avec laquelle il était là, séparé depuis plusieurs années, mais en instance de divorce. Rebecca Blefnik, 41 ans, criblé de balles dans son appartement. Et là, le problème, c'est que lui a déjà été dans le jeu télévisé Family Feud et dans un segment de l'émission, eh ben, il se fait demander par l'animateur Steve Harvey quelle est la plus grosse erreur que vous ayez commise à votre mariage. Et lui répond, puis tout ça date de janvier 2020, donc il y a un peu plus de 3 ans. Il dit, chérie, je t'aime, mais la réponse, c'est d'avoir dit oui. La pire chose, ça, à ton mariage, d'avoir dit oui. Et là, la foule une réaction négative un peu partout. Il dit, ah, j'aime ma femme, mais je vais avoir des ennuis pour ça, n'est-ce pas? Mais là, le problème, c'est que ça, cette vidéo-là est ressortie. Puis là, les gens publient ça à grande échelle un peu partout en disant, bon, est-ce que c'était comme la préméditation de cet homme-là dans son mariage? Son avocat a dû se présenter sur les ondes de Fox News pour dire que c'était qu'une blague que son client avait fait. Il a dit, c'est une réponse idiote à une question idiote dans une émission idiote. Ça ne fait pas de quelqu'un un meurtrier, mais quand même, le tribunal du web est ce qu'il est, Benoît.
Très bien. Merci, Alex.
Salut.
À demain.